C'est un truc de mal. Il y a quelque chose, on dirait. Non, il n'y a pourtant pas quelque chose. Alors, Patrick Bernard, on l'accueille immédiatement. Bonjour, bonjour, bonjour Patrick, on s'assoit. Ben oui, il n'y a pas que cette musique, il n'y a pas que ce disque. Ça, c'était Atlantis Angelis.
Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Ben oui, c'était Atlantis Angelis, ça fait quand même, c'était en 89.
Ah oui.
Tu étais venu au lancement au Planétarium.
Eh oui, certainement.
J'étais à fond, j'avais plus de voix, j'étais comme ça. Ensuite, un coup du destin.
Il y a eu aussi après
Solaris Universalis, oui.
Par après Shamanica. Après
Réconciliation, le disque scandaleux.
Oui, parce que tu as mis une musique, un rythme, une couleur qui était absolument différente des autres. On ne reconnaissait plus Patrick Bernard. On s'est dit c'est de la profanation de Patrick Bernard. Oser appeler ça un disque de Patrick Bernard. Mais peux-tu m'expliquer si ça rentre dans la même personnage?
Ça rentre dans les deux dans les deux techniques. Hein, parce que moi, je fais pas de la musique nouvel âge nécessairement. Je fais du chant sacré. Je fais du chant sacré, je chante des mantras, je fais de la musique dévotionnelle. Donc, c'est une musique pour éveiller la dévotion en soi. C'est pas une dévotion nécessairement sentimentale, mais c'est une dévotion d'éveil, quoi. J'essaye d'éveiller une conscience en moi d'abord, et puis comme c'est diffusé dans le public, on essaye de présenter ça d'une manière plus publique. Mais moi je suis un disciple de la tradition des Védas. Hein. Là on a eu Pierre-André Bouchard qui nous a parlé très très bien de la Torah. Moi je parle souvent de la Torah, mais c'est une Torah sanscrite. Ce sont des écritures qui proviennent d'une autre civilisation qui est antérieure à la Torah hébraïque.
De combien de temps, on peut dire?
De 3000 ans.
3000 ans, plus ancienne. Donc, ça remonte à 5000 ans. Alors que la Torah, c'est 4000 ans.
C'est pas parce qu'elle est plus ancienne qu'elle en est supérieure, elle est simplement différente. Au lieu d'être écrite en langue hébraïque, ou la langue des Elohim, elle est écrite, ce sont les écritures védiques, donc les Védas, et c'est écrit en sanskrit. Et le sanskrit, c'est les écritures des Devas, le Devanagari.
Hein. Donc, Devas, on pourrait dire, un Deva, c'est un peu comme un extraterrestre, un Elohim.
Oui, c'est un archange, un Deva, c'est un ange, un archange, c'est un humanoïde qui vient de planètes supérieures, on en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Mais moi, dans mon travail, je chante donc en sanskrit, et dans le sanskrit, il y a le phénomène des mantras. On en reparlera tout à l'heure aussi parce qu'on va voir que des vaisseaux spatiaux sont décrits dans la tradition des Védas et ces vaisseaux qui s'appellent des Vimanas fonctionnent avec des vibrations sonores qui sont aussi des vibrations mantriques, des mantras. Donc des mantras qui, ce sont des structures sonores qui ont tendance à libérer l'esprit, à apaiser l'esprit et on sait que quand on arrive à apaiser notre esprit, à libérer notre esprit de tout ce qui nous encombre, par exemple les inquiétudes, les angoisses, les émotions nuisibles, les émotions négatives, les complexes, les choses comme ça, ça nous embarrasse l'esprit, tout ça. Alors quand on arrive à se libérer de tout ça, graduellement, et ben là il y a quelque chose qui s'éveille en nous. Et étrangement, c'est notre vrai moi, hein, c'est notre véritable identité. Et ça se passe depuis des milliers d'années dans différentes cultures. Mais dans la culture sanskrit, on a utilisé le phénomène des mantras, le phénomène des structures sonores pour arriver à apaiser l'esprit et à réveiller cette conscience. Et après, on s'aperçoit que cette conscience survit à la dissolution du corps physique, etc. Donc c'est une conscience cosmique, c'est notre âme. Hein. Idée qui a été récupérée par pas mal de religions, comme on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est pas parce que les religions ont récupéré cette idée-là que cette idée n'existe pas. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises églises que toutes les églises sont mauvaises. Voilà.
Et que le message fondamental
Et que le message
soit correct.
fondamental est faux. Hein.
Ça.
Le message est vrai, sauf que bon, il y a des gens de peu, il y a des gens peu
Pour ça, la
scrupuleux,
différence entre le
disons.
message et le messager.
Voilà, c'est ça.
Ça.
Alors, voilà. Donc, pour répondre à ta question, dans la musique, on peut se permettre différentes formes, parce que dans la tradition des Védas, on a le phénomène des mantras, et ce phénomène des mantras n'est pas nécessairement chanté. Les mantras ne sont pas nécessairement chantés sur une musique de relaxation. De temps en temps, les mantras, et souvent, les mantras sont chantés sur une musique dynamique, de dynamisation, on pourrait dire, enfin, pour dynamiser. C'est ce qu'on appelle le kirtan. On a le bhajan, qui vient de la racine sanskrite bhaj, qui veut dire amour, service d'amour, bhajan, méditation dans la dévotion, service d'amour. C'est ce que, c'est Atlantis Angelis, c'est Solaris Universalis, c'est Amor Immortalis, le tout nouveau. J'ai repris la formule du bhajan. C'est une musique très voluptueuse, assez tendre. C'est une musique que l'on peut utiliser pour la relaxation, la détente. Et la méditation, telle que la méditation est connue en Occident, là où on s'occide, comme tu as dit à Québec.
Toujours l'Occident,
Voilà.
ça oxyde, ça rouille,
Voilà,
alors que
c'est
l'Orient
ça.
oriente.
Sauf que cette musique dévotionnelle, ce bhajan, qui est un peu une musique d'adoration, ce n'est pas une finalité en soi. Il y a une forme de méditation supérieure dans la tradition des mantras que l'on appelle le kirtan. Et là, le kirtan, si vous voyez les gens faire du kirtan, alors là, vous allez vraiment être étonné parce que ça saute dans les airs, ça se roule par terre, ça prend des instruments de percussion, ça saute, ça danse, ça bouge. C'est vraiment dynamique, c'est rock and roll, c'est vraiment. Mais ça reste, non seulement ça reste de la méditation, mais c'est une forme supérieure de méditation. Et ça, on l'avait en Occident aussi avant, et là, je pense que Pierre-André Bouchard va être content, parce que avant l'arrivée de l'Église romaine, avant l'arrivée de la grande secte de l'Église romaine au Moyen Âge, ben, je veux dire en Occident, c'est-à-dire en Europe, dans les
Avec
villages.
le grégorien, entre autres.
Oui, c'est ça, et toute la musique de l'église, tu vois. Dans les villages, avant l'arrivée de l'église, on avait de la musique de kirtan occidentale, on avait de la trance, on sortait les biniou, on sortait les instruments de percussion, les tambourins, les tam-tams, les choses comme ça, et les gens célébraient le sacré et le social étaient très mêlés, un petit peu comme en Amérique du Sud. Le social et le sacré, donc à la fin des récoltes, au début du printemps, à la Saint-Jean et tout, les gens faisaient de la musique sacrée, de la musique pour retrouver son âme, pour retrouver son identité véritable. Mais ce n'était pas de la musique Nouvel Âge, hein, c'était de la musique très très enjouée, dynamique, sur laquelle on pouvait danser. Donc moi, quand je fais des albums comme Réconciliation, et probablement que je vais en faire encore si la Providence m'en
Ici,
laisse.
le public peut se réconcilier avec ce style
Ouais, c'est ça.
de Patrick Bernard, qui est tout à fait le style habituel. Ouais.
Non, c'est ça, parce que ça, moi, j'avoue que c'est un album qui n'a pas tellement bien marché en Occident. Il a bien marché en Inde, mais pas ici. Oui. Par contre, Atlantis Angelis en Inde, tu vois, c'est un peu faible. Par contre, Réconciliation fonctionne très bien là-bas, parce que là-bas, ils connaissent le kirtan, et ça, c'est du kirtan. Vous voyez, alors en Occident, on est resté musique de méditation, musique spirituelle veut automatiquement dire musique calme, musique tendre, musique voluptueuse. Alors qu'en Orient, pas du tout. En Orient, même la musique d'adoration dévotionnelle telle qu'on la connaît ici en Occident, ça paraît une musique tamasique. Tamasique, en sanskrit, ça veut dire inerte, même presque ignorante. Donc ça, oui, hein, ça paraît, ils disent c'est musique inerte. Par contre, une musique chanter des mantras sur du rythme, là c'est Rajas Sattvas, sattvique, musique vertueuse, une musique dynamique, musique de vie, la musique de la vie. Hein, il y a de la vie dedans, il y a du mouvement, c'est dynamique, il y a une vibration, un rythme, comme le cœur qui bat, hein, comme un rythme cardiaque, comme une respiration. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire hein, pour accepter ça en Occident. En tout cas, moi, je vais continuer. C'est un de mes chevals de bataille. Je vais continuer à essayer de le faire. Peut-être pas dans le prochain. En tout cas, le nouveau, Amor Immortalis, c'est très doux hein, comme musique.
On appelle ça des fois de la musique planante.
Voilà. Il vaut mieux planer que ramper. Hein?
Ah oui.
En tout cas, je ne suis pas venu parler de musique aujourd'hui.
Non, c'est ce qui va surprendre plusieurs, parce que Patrick Bernard va nous parler de ces extraterrestres qui remontent à la nuit des temps, en tout cas à une culture
Ouais.
tellement ancienne qu'on se demande est-ce qu'il s'agit de documents mythiques
Je
ou c'est
vous.
basé sur des textes écrits. On a déjà entendu parler de la Bhagavad Gita ici. Hein? C'est quoi à peu près? Est-ce qu'on peut dire que la Bhagavad Gita, c'est un peu comme la Bible, l'Ancien Testament?
Oui, bon, on peut dire que la Bhagavad Gita, c'est un peu comme la Bible orientale, disons. Et en même temps, c'est faux comme expression, parce que Biblos veut dire livre, je crois. Hein. Donc la Bhagavad Gita est un livre aussi. Gita veut dire chant, déjà, c'est un chant. Bhagavan, ça veut dire l'être suprême. Bhagavat. Donc le chant de l'être suprême, on sait que la Bhagavad Gita a été dit ou chanté par Krishna, qui est symbolisé comme l'être suprême en Orient, pas juste en Inde, mais dans tout l'Orient, même en Indonésie. Et c'est un chant qui est donné à Arjuna. Et dans le Mahabharata, hein, le Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata, qui est la grande histoire du monde. Et Arjuna, dans le Mahabharata, voyage dans des planètes, dans des systèmes planétaires supérieurs. Donc le Arjuna, l'ami du chanteur de la Bhagavad Gita, voyage dans sa vie, dans son histoire, dans des planètes, dans des systèmes planétaires différents, avec des moyens de propulsion bien particuliers. Et en fait, je suis venu vous parler de ça aujourd'hui, et je suis bien mal à l'aise parce que c'est pas vraiment mon rayon. Moi, je préfère parler de musique. Mais ça m'a tellement passionné, j'ai découvert une enquête, l'enquête sur les extraterrestres. Donc, connaissant Richard, j'ai dit, tiens, ça va intéresser mon ami Richard, qui est un ufologue bien connu.
Surtout un ésotériste.
Oui,
C'est ce qui me passionne, c'est qu'on tombe dans une doctrine qui est à la fois
c'est ça.
révélatrice de côté très technique, matériel, les fameuses soucoupes volantes qui portent un autre nom là-bas, on va le savoir tantôt, mais c'est
Vimanas.
Vimanas, les
Vimanas,
Vimanas, c'est ça.
oui.
Au lieu de parler de soucoupes volantes, c'est des
Voilà.
Vimanas, et ça a les mêmes propriétés. Hein. Ça
C'est
déplace des êtres humains qui montent à bord.
Oui, on va en parler.
C'est ça.
Techniquement, on va rentrer dans la technique plus aujourd'hui.
Et ça nous permet de comprendre toute la métaphysique qui
Oui,
accompagne ça, qui est
oui.
différente un peu des fameux Elohim qui venaient détruire Sodome et Gomorrhe. Là-bas aussi, il y a eu des guerres. Hein.
Il y a toujours des combats.
Ouais.
On va en parler. Il y a des combats. Il y a toujours des combats, des grands combats entre le bien et le mal. Hein. La cosmogonie védique est très simple. D'un côté, il y a les bons, d'un côté, les méchants.
Et
C'est comme dans les Star Trek, hein.
l'être humain, lui, il est où?
Ben, l'être humain, il est, on dit tatashta shakti, techniquement, en sanskrit, ça veut dire qu'il est influençable. L'être humain, il peut tomber d'un côté ou de l'autre. C'est une énergie qui est neutre, un petit peu comme l'électricité. L'électricité, selon la technique que l'on emploie, avec la même énergie, on peut faire du chaud ou on peut faire du froid. Si on a un réfrigérateur avec la même électricité, on fait du froid. Si on a un poêle, on fait du chaud. Hein. C'est vraiment bien simple. Bon, dans la cosmogonie védique, c'est bien simple. D'un côté, il y a les méchants, les asuras. C'est ça, c'est les méchants. Bon, tu pourrais les appeler les petits gris. C'est les gens
Les intraterrestres.
ou les intraterrestres ou c'est ça, ou les gens qui viennent de dessous. Parce que asura veut dire lumière. Donc asura, ça veut dire les gens qui s'éloignent de la lumière. Les gens qui s'éloignent de l'amour, les gens qui s'éloignent de la conscience universelle, qui se séparent de la lumière.
Les mondes inférieurs, qui a donné le mot inferno, qui veut dire enfer. L'enfer, c'est inférieur. Et donc, il y a des réalités inférieures. Est-ce qu'on va parler d'êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre aussi dans ces traditions?
Dans la tradition védique, il y a les deux. Hein. Il y a les gens qui viennent des autres planètes, il y a les gens qui viennent des autres dimensions. Alors, ils ne sont pas nécessaires des entités, des humanoïdes, des races supra ou infra-humaines qui nous visitent, mais qui ne sont pas nécessairement résidents d'autres planètes. Ils peuvent habiter la Terre, mais ils habitent sur la Terre, quelque part dans la Terre, autour de la Terre, mais dans une dimension différente. donc invisible à nos sens communs. Donc il y a les deux. Il peut y avoir des extraterrestres qui viennent d'autres planètes, mais il y a aussi des extraterrestres. En ce moment-là, ce n'est pas des extraterrestres, c'est plutôt des extra-dimensions. Des êtres qui viennent d'extra-dimensions, de supra-dimensions. Des êtres qui voyagent dans le multidimensionnel. Donc ils peuvent habiter avec nous sur la Terre, mais dans des dimensions plus astrales, avec une matière dans une matière plus subtile, et selon différentes circonstances de temps, de lieu, et d'état d'âme aussi, ces dimensions peuvent se croiser. À ce moment-là, ça crée des contacts. Ça crée des contacts, ça crée des rencontres, du troisième ou du sixième ou du deuxième type, je ne sais pas, mais ça crée des rencontres.
Est-ce qu'on peut parler de niveau supérieur et de niveau inférieur?
Oui, dans la tradition védique, il y a disons, le symbole ou l'approche du paradis et de l'enfer, tel que c'est connu dans la Bible. Dans toutes les traditions, hein, je crois, il y a un haut et un bas. Hein. Dans toutes les traditions que j'ai explorées, j'ai vu qu'il y avait des enfers et des paradis. Sauf que j'aime bien la tradition védique parce que, pour les définitions qu'on donne, l'enfer, c'est pas un enfer comme on le connaît dans la Bible, mais ce sont des systèmes planétaires où les conditions de vie sont extrêmement pénibles. Ah. C'est ça. C'est des endroits dans l'univers matériel où les conditions de vie sont pénibles, difficiles, douloureuses. Et le paradis, c'est pas encore le monde spirituel. Le paradis tel qu'il est décrit dans les Védas, le paradis, c'est le monde des Devas. Donc, ce sont des systèmes planétaires où les conditions de vie sont merveilleuses. Mais tout ça, c'est encore le monde matériel. C'est-à-dire que, d'après le Veda, le monde matériel, l'univers créé, la manifestation cosmique créée, est séparé en trois parties. Il y a le paradis, où les systèmes planétaires supérieurs, Brahma Loka, Svarga Loka, où il y a des alienigènes, des humanoïdes, des races suprahumaines qui sont merveilleusement bonnes. On pourrait les appeler les anges, les archanges, les séraphins, les Elohim, les devas.
Les sept cœurs des anges, quoi.
Voilà, c'est ça. Et si on visite la tradition celte, on va encore avoir d'autres mots. La tradition aztèque, on aura encore d'autres mots. Mais ce sont des archétypes, des principes. Il y a des êtres qui habitent, qui résident dans ces systèmes planétaires-là. Qui sont très très bons, c'est peut-être les grands blonds aux yeux bleus, hein. Ils sont très bons. Et ces gens-là nous visitent, parce que nous sur la Terre, on se situe dans des systèmes planétaires intermédiaires. Voyons, je vais le dire, Bhumi, Bhumandala, Bhumi. Tout ça, c'est des systèmes planétaires terrestres, donc intermédiaires, situés entre, disons, le paradis et l'enfer. Entre les conditions de vie merveilleuses et les conditions de vie pénibles.
Est-ce que ces êtres supérieurs et inférieurs se font la guerre
Oui, il y a
directement?
toujours des combats. Parce que comme l'être humain, ou les êtres humains, il y a 400 000 races humaines, tu vois, on n'en connaît pas beaucoup, mais il y en a 400 000. Ça veut dire que sur d'autres planètes, parce que selon la version védique, toutes les planètes sont habitées, pas nécessairement dans le physique, les planètes peuvent être habitées dans l'astral, ou dans l'éthérique, ou dans l'akashique, etc. Il y a différentes dimensions. Si on visite une planète, par exemple, on va sur la Lune et puis on voit, il n'y a personne, il n'y a que de la poussière. On en déduit que la Lune est inhabitée. Faux. Parce qu'elle est inhabitée au niveau physique. D'accord, on n'a rien vu. Mais elle peut être habitée au niveau akashique. Parce qu'on n'a pas visité ces régions-là. On n'a pas visité les régions éthériques, les régions
On parle
mentales.
d'astrosophie,
Voilà.
d'astronomie, l'astrologie et l'astrosophie qui nous permettent de comprendre et de connaître justement ces dimensions.
Multidimensionnel. C'est sûr que si on parle de ça à un savant de la NASA, il va dire non, non, ça n'existe pas. Ça fait partie du domaine du douteux. L'astral n'existe pas, l'éther n'existe pas, le mental n'existe pas parce qu'on n'a pas les outils pour le visiter, pour le calculer, pour le quantifier.
On dit même que les soleils, les étoiles sont habitées.
Oui. Selon la version védique, tout est habité, l'éther est habité, l'atome est habité, et chaque planète a un régent, un roi, un régent planétaire, et il y a une administration cosmique, il y a une administration planétaire. Il y a des présidents, il y a des commandants, il y a des armées, il y a des, je ne sais pas moi, des
Des
commandants de
structures
camp. Il y
sociales.
a une hiérarchie.
Oui.
Il y a une hiérarchie. Une administration cosmique, universelle. Ça. Et alors, on a la même chose dans les planètes inférieures, dans les systèmes planétaires inférieurs. Patala Loka, hein, on avait Brahma Loka, Svarga Loka là-haut. En bas, on va avoir Patala Loka. Conditions de vie difficiles. Conditions de vie difficiles. Et là aussi, il y a des êtres. Mais ça ne veut pas dire que s'ils résident dans des systèmes planétaires inférieurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs au niveau de leur intelligence. Ce sont des êtres très intelligents, mais pas nécessairement beaux au niveau physique. Et c'est vrai que moi, je vais voir des fois les films qui sortent au cinéma où il y a une vie extraterrestre, parce que bon, j'aime bien les histoires de ces choses-là. Alors je vais les voir. Mais souvent, je suis un peu déçu parce que dans les films que l'on voit, les films qui sont populaires en tout cas, on voit toujours que les extraterrestres viennent d'en bas. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, ils sont méchants.
Effectivement, les petits gris, hein, les
Ouais.
gros yeux, les grosses têtes, là,
Ouais.
ces petits personnages dégueulasses, même E.T., oui, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là, là, le fameux extraterrestre, sont pas beaux. Ils ont des peaux de crapaud, ils ont l'air un peu reptilien, puis.
Sauf qu'E.T. était gentil quand même. Oui, il était gentil, si je me souviens bien. Mais il était pas beau, mais il était gentil.
Il pouvait bien être gentil, il était
Ah,
tellement
c'est
désemparé qu'il ne
ça,
peut pas être autrement que gentil pour s'en
hein. Il était
sortir.
tout seul.
Ouais.
Oui. Ouais. Alors, téléphone, maison. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Alors, nous, on est sur la Terre, d'après la version védique, c'est ça. On a pris naissance pour quelques années terrestres. Et on est visité. On est visité. Et alors, selon notre désir, parce que d'après le Veda, tout fonctionne par le désir. C'est le désir qui est le mécanisme de l'univers. D'après le désir que l'on a, on se fait influencer ou on rencontre soit les Asuras ou les Rakshasas, les Danavas, et tous les gens qui viennent d'en bas. C'est un petit peu le nom technique en sanskrit qui sont donnés pour les petits gris dans la version des Védas. Rakshasas.
Comme grésé quoi, sans traduction.
Rakshasas, ça veut dire qui s'entre-dévore. Raksha, Rakshasas. Hein. Ils sont pas gentils.
Donc c'est le principe, encore une fois, de qui se ressemble,
Ouais.
se rassemble.
Oui, toujours.
T'attireras
Toujours.
ton
Ah ouais,
semblable.
toujours. C'est le système de l'association, hein. Tu t'associes avec du blanc, tu deviens blanc. Tu t'associes avec du rouge, tu deviens rouge. Tu t'associes avec du bon, tu deviens bon. Tu t'associes avec des gens qui sont méchants. Hein. Tu as toujours tendance à devenir comme eux, hein, c'est sûr.
Ça s'associe à des gens bons.
Hein, c'est ça. Alors moi, je suis végétarien, alors je veux bien m'associer avec des gens bons, mais pas avec du jambon.
Oui, c'est vrai,
On va laisser
parce
le.
que justement, la notion de végétarisme, c'est une notion qui revient de manière régulière lorsqu'on parle des bons extraterrestres. Eux sont végétariens, ils prônent le végétarisme, et toi, tu l'es depuis 30 ans.
Moi, je suis pas vraiment fanatique végétarien, quoique depuis 3 semaines, là, je redeviens un peu végétarien pur laine. Parce que je mange pas de poisson, je mange pas d'œufs, les œufs, je mange pas, et je mange pas de viande. Bon, il y a
Oui,
des hauts
tu
et
n'as
des bas, hein, parce que des fois, il y a des accidents. Hein. Des
pas de
fois,
produits laitiers.
je mange du fromage.
Donc,
Ouais.
tu n'es pas macrobiotique, là, je ne
Je
parle
suis pas un macro, moi.
pas. C'est dans le poisson, le
Je
macro,
suis
pas
même
comme.
pas biotique.
Non.
Je suis un être humain tout à fait
Est-ce que
insignifiant.
tu crois, faisons un petit aparté, que ce qu'on mange, ça donne ce qu'on est?
Oui, oui,
On
oui.
est ce
Ce
qu'on
qu'on
vit, ce
mange,
que l'on mange.
nous influence.
C'est ça.
La musique que l'on écoute nous influence. Ça, c'est des études que j'ai faites dans les secrets de la musique de l'âme, dans mes livres. J'ai essayé de faire des études de synthèse comme ça pour dire, ah ben, voyez, Ça, c'est pas mon opinion, mais j'ai cité plein de scientifiques comme ça pour essayer de faire une synthèse pour montrer comment il y avait certaines choses qui nous influençaient, comme la visite, par exemple, des Danavas ou des Rakshasas, qui s'incarnent dans la société humaine. On sait sûr qu'ils vont nous influencer vers le Ugra Karma, en sanskrit, ça veut dire des activités qui ne visent que la destruction de l'humanité. Maintenant, si on s'associe hein, avec les devas, avec une nourriture de deva, et non pas une nourriture de rakshasa, à ce moment-là, on va être plus influencé vers les devas, vers les archanges, vers les anges, vers quelque chose d'angélique. Et d'après les Védas, la nourriture dévique, c'est un petit peu la nourriture qui est donnée aussi dans la Bible. Hein. Au début, dans la Bible, on dit bon, vous mangerez l'herbe des champs, les fruits des arbres, le miel des abeilles, les herbes des champs. C'est sûr que c'est le blé, le sarrasin, les céréales. Hein. Les herbes des champs, c'est
Donc pas de
les
jambon,
blés tropicaux.
justement.
Ben,
Pas de jambon.
c'est-à-dire. Moi, j'ai du mal un peu avec le jambon, parce que je crois que, et de la même manière que les musiques nous influencent, je suis arrivé en tout cas à la conclusion que la nourriture aussi influence notre conscience, et la nourriture influence le comportement des individus au sein d'une société. Et le jambon, bon, c'est sûr que c'est un peu agonisant hein, comme nourriture, parce que moi, je sais pas si moi j'ai vécu un peu sur une ferme quand j'étais jeune. Je sais, je connais le cri du porc que l'on emmène se faire saigner. Et c'est un cri atroce, hein. C'est vraiment, au secours, le porc crie, hein, parce que le porc, finalement, c'est un être vivant. C'est peut-être pas un être humain, mais c'est un être vivant qui a, finalement des sentiments, un père, une mère, des enfants, une blonde ou un chum.
On l'entend à peu près pas dans la ferme quand il mange, hein, il grogne. Oui, mais quand il crie, c'est vrai, parce que les animaux comme les bœufs, là, les vaches, quand on les tue, ça meugle, mais ordinairement. Mais un cochon qui sait qu'il va mourir, c'est un cri atroce, un cri de... On l'a entendu, moi aussi.
Ouais, je sais bien qu'on dit que bon, c'est pas ce qui rentre par la bouche qui influence, mais ce qui en sort, etc. Bon, ben ça, c'est une
Non, c'est pas ce
autre.
qui influence. Attention, en anglais, je t'avais dit, ce qui vous souille, ce n'est pas ce qui entre en vous, mais ce qui en sort, qui vous souille.
C'est vrai. Mais bon, ça c'est une version. Hein. Toutes les versions finalement sont plus ou moins valables. Moi j'ai la mienne en tout cas, puis je m'en porte très bien parce que j'ai vraiment l'impression que ces nourritures nous influencent. Et bon, si on se nourrit de sang, on aura tendance à rencontrer ou à rentrer en contact avec des gens aussi qui se nourrissent de sang. Hein. Et les Rakshasas se nourrissent de sang humain. Les Danavas, les Asuras se nourrissent de sang humain, se nourrissent peut-être pas de sang physique, mais on a aussi du sang subtil. Hein, parce que dans la tradition védique, ça c'est bien important, la matière n'est pas seulement dense, la matière n'est pas seulement brute, la matière peut être subtile aussi. Il n'y a pas seulement une matière dense. Nous, en Occident, quand on parle de matière, et je pense que la Bible ne fait pas vraiment la séparation. La Bible fait la séparation entre l'éphémère et l'éternel, donc l'esprit et la matière.
Matière et l'esprit,
C'est
oui.
ça.
Éphémère, matière.
La matière est transitoire, éphémère, et l'esprit est éternel. Mais dans la tradition des Védas, il y a des nuances. C'est beaucoup plus subtil que ça au niveau des cloisonnements. Et déjà, la matière, elle est séparée en plusieurs catégories, dont deux grandes catégories, dense et subtile. Donc, il y a une matière qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est pas, on peut ne, on ne peut pas la toucher. C'est pas du spirituel, là, mais c'est de la matière. C'est de la matière. Par exemple, une pensée. C'est une chose matérielle, c'est un objet matériel, la pensée. Mais on la considère pas généralement comme une chose matérielle parce que on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir, ni avec ses mains, ni avec son nez, etc. Alors pour la compréhension des contacts avec les ovnis en général, Je pense que cette notion de matière subtile est extrêmement importante. Parce que si on juge, comme le font habituellement les autorités, et c'est pour ça qu'ils n'y croient pas, les autorités scientifiques et médicales et politiques, on juge beaucoup les rapports d'OVNI par rapport à la matière grossière, par rapport à la matière brute que l'on peut quantifier, que l'on peut peser, que l'on peut voir, que l'on peut mesurer, etc. Donc les rapports d'OVNI nous paraissent complètement farfelus, paraissent complètement douteux par rapport à cette perception sensorielle-là.
Alors, dans les textes anciens, on donne des caractéristiques de ces manifestations qu'aujourd'hui, on commence à prendre au sérieux. Quand quelqu'un dit « ça a apparu, ça a disparu, ça fait un flash de lumière, puis d'un coup c'était là, d'un coup c'était plus là », on retrouve un peu ces descriptions de manifestations entre ces mondes.
On en parle.
Oui.
On rentre dans le vif du sujet.
Dans l'ufologie.
C'est pas tellement romantique, c'est plus technique. Je m'excuse, ça va être assez technique. Mais c'est quand même passionnant, parce que c'est quand même des textes qui ont été écrits il y a 5000 ans, au maximum, 3000 ans au minimum. Et on retrouve ce qu'on appelle des pouvoirs. Les gens pouvaient développer des pouvoirs. Et il y a des humanoïdes, des alienigènes qui naissent directement avec ces pouvoirs à la naissance. Comme nous, on a le pouvoir de la vision, on a le pouvoir de la parole à la naissance. Ça se développe, mais potentiellement, on l'a à la naissance. On a le pouvoir d'entendre à la naissance. Bon, alors d'après les Védas, il y a des races qui, à la naissance, viennent avec certains pouvoirs. Et ces pouvoirs sont étrangement familiers avec les rapports d'OVNI tels qu'on les connaît dans le monde moderne. Comme par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle en sanskrit drishya. Drishya, c'est une technique pour rendre un vaisseau spatial invisible, pour le dissimuler. Voilà. Il y a trois façons, d'après les Védas, de dissimuler un vimana à l'ennemi. C'est des techniques qui nous sont complètement inconnues et qui sont répertoriées dans les Védas. Et ce sont des techniques qui expliquent comment on peut rendre un vaisseau spatial invisible. Et c'est bien connu, Richard, tu le sais très bien, que dans les rapports d'OVNI, les gens disent souvent, on l'a vu, on ne le voyait plus, on l'a revu, et puis il a disparu, et puis après, il est réapparu, et puis après on ne le voyait plus. Enfin, il y a une grosse confusion par rapport à ça.
D'ailleurs, effectivement, voir et pas voir, c'est qu'il y a des gens qui le voient, et en même temps, dans un groupe de témoins, il y en a qui ne voient pas. Il y a des gens qui disent, regarde, les autres se retournent, cherchent, ouh, 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 mais regarde, il est là. Il y a des gens qui ne voient pas. Donc, il y a une façon de devenir invisible qui est particulière, parce que ça rejoindrait, si on veut, le nerf optique ou qui rejoindrait l'état de conscience des témoins. Dans d'autres cas, l'OVNI n'est pas perçu sur les écrans radars et il est là au-dessus d'une piste d'atterrissage. Ça s'est vu sur l'aéroport de Vancouver il y a peu de temps. Et sur l'écran radar, on ne voyait rien, mais on le voyait de la tour de contrôle. Il était là. Et d'autres fois, c'est l'inverse. On le voit sur l'écran radar, mais on ne le voit pas en physique. Donc, comme tu dis, il y a peut-être différentes façons de devenir visible ou de devenir invisible.
D'après les Védas, il y en a trois.
C'est ça.
C'est assez
ils donnent pas les techniques, ils donnent pas les
Si. C'est Gudha, Drishya et Adrishya.
Ah, ben évidemment, on n'a pas oublié.
Ne te moque pas du sanskrit.
Non.
Attends, je t'en donne un. Regarde. La collision de la force électrique et de la force éolienne, donc le vent, dans l'atmosphère, la collision de ces deux forces-là, électrique et éolienne, dans l'atmosphère, engendre une radiance dont le reflet doit être capté par le miroir fixé à l'avant du Vimanas, un miroir qui s'appelle Vishvakriya Dharapana, et dont la manipulation créerait un Maya Vimana, c'est-à-dire un Maya Vimana, c'est-à-dire un Vimana camouflé, donc un vaisseau spatial invisible.
Ou camouflé, parce que Maya, Vimana, oui. Maya, c'est ça. Illusion.
Une illusion qui n'est pas là, c'est il ça. Est là.
comme ça.
Il y a d'autres techniques, comme par exemple
Sais-tu, ça me rappelle les hélicoptères utilisés par l'armée américaine pour devenir complètement inaudible. Un hélicoptère, ça fait du bruit. Hein. Bon.
Je sais.
Mais
hein.
ils ont découvert qu'un son, c'est une onde hélicoïdale. Il suffit d'envoyer la même onde exactement, mais déphasée de 180 degrés. Et à ce moment-là, l'onde qui monte, qui fait le bruit, il y a l'onde contraire qu'on envoie par des haut-parleurs branchés sur l'hélicoptère, qui fait que tu n'entends plus l'hélicoptère. Parce que tu as son son, et le contraire de son son qui est envoyé aussi fort avec des amplificateurs, qui fait que l'hélicoptère devient totalement silencieux. Alors c'est un peu ça, tu envoies la lumière, un miroir qui fait refléter la lumière sur l'appareil, qui fait que l'appareil devient visible.
C'est des techniques.
Tout ce qu'on voit, c'est le miroir.
Oui, c'est ça. C'est des techniques qui, sous l'éclairage de ces techniques-là, on comprend mieux ce qui se passe dans les rapports d'OVNI. Parce que si on juge les rapports d'OVNI avec les techniques que l'on connaît actuellement, ça paraît impossible. Ça paraît douteux, ça paraît frauduleux même, à la limite. Mais les rapports d'OVNI sous la lumière de ces techniques-là, ben, ça paraît tout à fait possible.
Et c'est déjà écrit dans les textes depuis plusieurs
milliers d'années. C'est ça qui est absolument effarant.
As-tu d'autres exemples?
Par exemple, il y a la formation des nuages qui s'appelle Paroksha, Paroksha en sanskrit. Selon un autre livre des Védas qui s'appelle, je te le dis encore, Megopatni Prakarana. Hein, ça c'est un livre qui fait partie des Védas. Ou la science de la formation des nuages. Comment créer des nuages? En pénétrant la seconde couche de nuages estivaux et en attirant la puissance qu'elle contient à l'aide du miroir du Vimana, il y a encore cette histoire de miroir, et en l'appliquant au halo du Vimana, il y a un halo, donc une lumière.
L'effet Corona.
Oui. Une force paralysante qui immobilise les Vimanas ennemis et les met hors d'état de nuire est créée. Donc on crée une force paralysante à travers la formation de nuages. Et on sait que les rapports d'OVNI sont remplis de nuages. Il y a toujours des nuages. Il y a toujours un nuage qui cache un OVNI ou un OVNI derrière un nuage. Enfin, il y a beaucoup de nuages dans les rapports
d'OVNI. À l'extrême, on parlera de l'étoile des rois mages à la naissance de Jésus et de cette nuée, ce nuage dans lequel le Jésus est monté à la fin de sa vie à l'ascension. Il est disparu dans une nuée, dans un nuage.
On en sort un troisième. Aparoksha. Selon le Shastri Tantra, la projection du faisceau lumineux appelé Rohini fait apparaître tout ce qui se trouve devant le Vimanas. Et l'enquête dit, les rapports d'OVNI font souvent état de rayons paralysants ou de faisceaux lumineux. La mention d'un halo autour du vaisseau spatial mérite peut-être qu'on s'y attarde. Donc, il y a un parallèle entre le phénomène OVNI, et c'est un petit peu la conclusion à laquelle je voudrais venir avec ce document. Il y a vraiment un parallèle entre les phénomènes OVNI et les techniques et les pouvoirs que l'on trouve dans ces textes védiques vieux de plusieurs milliers d'années.
Ce document, cette enquête, c'est quoi? Moi, j'ai montré tantôt dans un livre, là, Les OVNI à la lumière de la tradition, écrit par Michel Coquet, qui est assez âgé, que malheureusement, il ne pourra pas se déplacer pour venir au Québec, parce que je l'ai contacté, je l'avais invité à venir nous parler. Et puis, il a écrit plein de livres sur justement l'Orient, le Gange, le voyage au Népal, et tout ça. Et il n'y a rien à faire. Mais dans ce livre-là, on trouve des rapprochements, justement, qui ressemblent à ton document.
Oui, mais il en parle, il parle des Vimanas. Il parle des humanoïdes, des races déviques, des races assouriques, des cités spatiales. Dans les Védas, on décrit des Hiranyapura. C'était une cité spatiale. Au-dessus de Sri Lanka, il y a une immense cité spatiale avec des véhicules, vaisseaux mères, puis des vaisseaux plus petits qui circulaient entre le vaisseau mère et la Terre, etc.
Ce document, Patrick, c'est quoi?
C'est une enquête sur les extraterrestres. Une enquête générale sur les extraterrestres, ça c'est la deuxième partie du document qui traite parallèlement, particulièrement, je veux dire, de la tradition védique. Et c'est la
C'est pas
raison.
sur le marché, ça. On peut pas
Non, on
trouver un
trouve,
million
non,
et demi.
c'est pas sur le marché.
Sur Internet, peut-être, on ne sait
Peut-être
jamais.
bientôt, oui,
Ouais.
peut-être on va le placer sur Internet,
Ben
ça serait
oui, il faudrait.
intéressant. Moi, je suis tombé complètement par hasard dessus parce que j'étudie la culture védique depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc, j'étais déjà rentré en contact avec ces informations, qu'effectivement, il y a beaucoup d'ovnis dans la tradition des Védas. Mais ça, c'est une enquête qui fait vraiment un parallèle. Et j'avoue que jusqu'à maintenant, les rapports de contact d'OVNI, je n'arrivais pas vraiment à comprendre comment des gens pouvaient se déplacer sur un faisceau lumineux, traverser des toits, être paralysés, disparaître, apparaître, expérimenter une dilatation du temps. Quoi d'autre encore? Des objets, par exemple, dans les rapports d'OVNI, il y a des objets qui restent, dont la structure moléculaire ne change pas, mais qui changent de volume.
Tu veux dire, un peu comme maman, j'ai réduit les enfants, là.
Oui, c'est ça. Mais
Donc, ils gardent la personnalité complète, puis
oui.
ben, on blow up the kids, là.
Se rendre, oui. Et
Ouais.
alors, en étudiant cette enquête, je me suis dit, mais voilà, tout s'explique, tout se clarifie, tout devient clair, parce que ces pouvoirs, non seulement ils sont connus depuis des milliers d'années, ils existent depuis des milliers d'années, les êtres humains peuvent les développer, mais les races supraterrestres, les Devas, ben, ils les ont déjà. Ils naissent avec, ils les ont à la naissance, ces pouvoirs-là. Donc, on comprend maintenant pourquoi dans les rapports d'OVNI, il y a tel ou tel phénomène qui se passe. Le vaisseau devient invisible, il devient visible, il change de forme. Les alienigènes peuvent traverser les murs. C'est sûr, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Ils ont le pouvoir de le faire.
La grande question dans les textes aussi anciens que ceux-là, dans la série des Mahabharata, est-ce qu'on a des textes prophétiques? Est-ce qu'on nous dit qu'un jour ils vont intervenir sur la Terre massivement? Est-ce que la Jérusalem céleste, porte un autre nom là-bas, là, va arriver?
Ce que dit surtout la tradition védique, c'est que ce n'est pas que les races supraterrestres vont se manifester, c'est qu'ils sont déjà là, ils se manifestent tout le temps. Et ils se manifestent finalement beaucoup moins qu'avant, parce que au temps de la civilisation védique, il y avait des grandes incantations, des grandes célébrations, des grands sacrifices, entre guillemets. On sacrifiait personne, mais c'était des sacrifices de graines. On faisait des cadeaux aux Devas. Parce que ces races supraterrestres dirigent, d'après les Védas, les phénomènes de la nature. Hein? Ils font la création, ils font la destruction, ils font la maintenance de la nature. Donc l'humain a comme le devoir de les incanter, de les respecter, d'avoir un rapport avec eux, comme on a un rapport normal avec une administration quelconque, n'est-ce pas? Là, c'est l'administration du cosmos. Donc à l'époque védique, les gens étaient conscients de ça et ils faisaient des fêtes, des festivals pour les invités. Et les devas apparaissaient avec leur vaisseau et leur paraphernalia, leur race, leur famille, etc. Donc il y avait une présence des extraterrestres. Logique, sociale, le sacré et le social étaient là. Et c'était des races suprahumaines bénéfiques pour l'humanité. C'était des gens qui venaient d'en haut, des planètes supérieures, des systèmes planétaires supérieurs. Maintenant, on a tout oublié. Et on est devenu égoïste. La race humaine est rentrée dans l'égoïsme. On n'a plus. Quand on fait une récolte, par exemple, on ne remercie plus la Terre. Parce qu'on a plus ce côté chamanique que la Terre est un être humain. Donc on dit même plus merci à la Terre. On se met à table, on dit même plus merci. Allez, on mange. Bon appétit, allez hop, on mange.
Et
Mais
on a
avant, les gens avaient conscience qu'il y a une race de Deva qui donne les récoltes. Le soleil est une personnalité. Le Saint-Laurent est une grande personnalité. On a perdu ça maintenant. Donc on n'a plus le contact avec les êtres derrière la nature. les humanoïdes derrière la nature. Par contre, on est devenu égoïste. Donc tout ce qu'on s'attire maintenant,
Égocentrique aussi.
oui, égocentrique, donc tout ce qu'on s'attire maintenant, c'est les petits avec les gros yeux, les pas bons. On s'attire les pas bons.
Comment j'appelle déjà celui-là?
Les asuras.
C'est ça.
Ouais.
Alors que les autres?
Les devas.
Oui.
Et il y a toujours un combat entre les asuras et les devas, d'après la tradition védique, un combat éternel qui dure depuis des milliers d'années, et tant que l'univers sera créé, la manifestation cosmique sera manifestée, ce combat continuera, parce que c'est un combat des forces du bien contre les forces du mal, et des forces du mal contre les forces du bien. Donc les devas essayent d'attirer les humains, les terrestres, vers la lumière, en s'incarnant dans la société, en différentes formes d'influence, en tout cas.
Peut-être que les bons aussi font la même chose.
Ouais, ben c'est ça.
Ils s'infiltrent dans la société parmi nous et puis passent inaperçus.
C'est ce que je dis,
Les bons,
les devas
les
essayent.
dévas, ok, mais les mauvais aussi, les asuras aussi.
Parallèlement, les asuras essayent d'influencer et d'attirer les terrestres vers le bas,
Et vers la destruction même.
vers la destruction. Et les deux se mènent un combat éternel. Et selon le désir des terrestres, alors la civilisation est entraînée vers la lumière ou la civilisation est entraînée vers les ténèbres. Et alors, le résultat, c'est que les conditions de vie deviennent ou faciles, pleines de bonheur, pleines de joie, pleines de paix, les gens sont heureux. Ils sont en santé, l'environnement est agréable, ou alors la civilisation est attirée vers les asuras, et alors les conditions de vie deviennent particulièrement pénibles et douloureuses. Bon, il n'y a qu'à lire les journaux en ce moment pour s'apercevoir que la civilisation, elle se détériore. Le tissu social en ce moment, depuis la révolution industrielle, tout se détériore. Et le tissu social, s'effiloche. La pollution, n'en parlons pas, crée des conditions de vie de plus en plus pénibles. Les éléments qui sont normalement donnés par Bhumi, l'extraterrestre de la Terre, normalement les conditions de vie sur la Terre sont bonnes. La Terre, c'est un jardin, elle donne à profusion. Il y a toujours des fruits dans les arbres, il y a toujours de l'eau dans les rivières. Il y a toujours des arbres pour construire des maisons. Mais si la civilisation est attirée vers les ténèbres, vers
L'égocentrisme.
oui, c'est ça, c'est ce manque d'harmonie avec l'ensemble de la galaxie, finalement, on se sépare
C'est ça.
de l'ensemble des choses, automatiquement, bon ben, on peut même plus boire l'eau du Saint-Laurent. On boit l'eau du Saint-Laurent, tu vas t'intoxiquer, toi, c'est pollué. Les fruits, il les pique aux antibiotiques maintenant, les fruits.
Et après, ils vont les irradier pour que Dieu sache et qu'ils
Voilà.
ne pourraient pas trouver.
Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'on tombe malade. Regarde, dans les hôpitaux, les malades, on ne sait plus quoi en faire, ils sont dans les couloirs.
On va en faire du soleil vert.
Ouais. Je sais pas ce qu'on. On va les soigner. On va les soigner. Raison positif, on va les soigner.
Tu sais que c'est le fameux soleil vert,
Oh, ouais, j'ai vu le film depuis.
hein? Voilà la
C'est
question.
ça,
Ça va briller
Ça
de
va
l'horizon.
briller tout
On
à
est passé à
l'heure.
Québec il y a 2 jours, hein, puis sur le boulevard Laurier,
Ouais.
d'un côté, tu as le centre d'achat Place Laurier, puis juste en face, tu as l'hôpital de Québec. Puis là, on s'est dit, ils vont préparer un corridor sur ce terrain, là, où là, ils mangent, là, ils traversent, sont malades.
Imagine.
Après ça, on va les retourner en soleil vert de l'autre côté pour qu'ils mangent, puis après ça. C'est déjà prévu, grand centre d'achat, juste en face de l'hôpital de Québec. Ouais.
Le cercle.
Ah ben, tout est recyclable. Hein.
Tout est
On était à une
recyclable.
époque du jetable,
Voilà.
maintenant c'est du recyclable.
Alors, ces deux races-là, les Asuras, ils ont leur nourriture, ils ont leur guna, comme on dit en sanskrit, leur guna, c'est-à-dire leur mode de nature matérielle, leur mode de fonctionnement. Et ils ont leur musique. Hein? Ils ont leur musique aussi. Ils ont leur mode de propulsion. Les vaisseaux spatiaux qui traversent qui viennent des planètes supérieures ne sont pas les mêmes au niveau technique, technologique que les vaisseaux spatiaux qui viennent d'en bas. Du reste, les vaisseaux des Devas ressemblent un peu à des cygnes. Ce sont des vaisseaux de lumière faits d'une énergie matérielle presque transcendantale. C'est une énergie matérielle subtile. Alors que les vaisseaux spatiaux des extraterrestres qui viennent d'en bas, les Asuras, ils se rapprochent plus de l'acier. Hein. C'est plus des soucoupes en acier, c'est plus des choses. Oui, plus nuts and bolts, comme on dit dans le sud. Et la technique est pas la même. Tout ça, c'est décrit dans les Védas
Et
depuis
les
des milliers
Védas
d'années.
ont été transmis, les Védas, par les Devas.
Les
Est-ce
Védas?
que c'est un texte qui vient d'en haut?
C'est un texte qui vient de Vyasadeva. Vyasadeva étant une incarnation
Krishna?
non, de Svargaloka. C'est des grands sages qui habitent sur des planètes supérieures et qui descendent régulièrement sur la pauvre Terre, sur la Terre intermédiaire, pour contrecarrer justement l'influence des Asuras. Contrecarrer l'influence des êtres dont la mentalité sont démoniaques, donc ils veulent détruire. Des êtres qui veulent foncièrement détruire, c'est leur mission. Et ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, mais c'est l'être humain qui doit décider de lui-même.
Est-ce qu'on peut faire un aparté sur Jésus, Yahshua? Est-ce que toi, Patrick Bernard, tu as l'impression que ce personnage est allé faire un tour en Inde, est allé s'inspirer? Là-bas, on parle du Cachemire.
Cet été, j'étais dans une ville près de l'océan Indien, sur la côte de l'océan Indien, qui s'appelle Jagannath Puri, où il y a un temple. Du reste, il y a un vieux temple. On ne peut même pas dater ce temple, parce qu'il est très très ancien. Et là, dans cette ville, il y a des traces, dans la bibliothèque en face, une vieille bibliothèque, avec tu sais, il y a encore des textes en sanskrit écrits sur de l'écorce d'arbre, de l'écorce pétrifiée. Donc c'est des textes qui sont très très anciens, et ils ont réussi à conserver ça. On a un passage qui traite de la visite de Jésus à Jagannath Puri. Et d'après moi, les livres que j'ai lus sur la vie du Christ, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie du Christ en Inde. Il lui est arrivé un peu la même histoire qui lui est arrivée en Israël, du reste, parce que quand il est arrivé à Jagannath Puri à l'époque, c'est-à-dire il va bientôt y avoir 2000 ans, dans 3 ans il y aura 2000 ans, il y avait un pouvoir religieux, comme à l'époque. Hein, à l'époque, il y avait un pouvoir religieux en place, et le Christ a été automatiquement mis en opposition à ce pouvoir religieux. Il est traité fils de vipère. Ah oui. Oui, il est traité de fils de vipère. Il est rentré dans le temple à un moment donné. Il s'est vraiment fâché. Il était contre le pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux en place de l'époque était contre lui. On sait pourquoi, parce que le Christ portait un message éternel, un message d'universalité, un message d'amour universel. Le pouvoir religieux en place, ben, c'est un peu comme tous les pouvoirs religieux en place. Ils sont un petit peu contre ces espèces de pensée universelle, parce que ils vont perdre leur privilège. L'amour universel fait perdre le privilège des pouvoirs religieux en place. C'est pour ça que on dit souvent que la spiritualité commence là où se terminent les religions. Bref, quand Jésus est arrivé à Jagannath Puri, il y avait un pouvoir religieux en place. C'était le pouvoir des brahmanes, le brahmanisme. Et d'après le brahmanisme, il y a des castes. Et dans les castes, il y a les intouchables, il y a différentes castes comme ça de gens, et les brahmanes, eux, sont les chefs. Et donc, évidemment, devine qui était au pouvoir, c'était les brahmanes. Ils s'étaient mis eux-mêmes au pouvoir. Et donc, ils étaient très bien avec tous leurs privilèges. Et Jésus est venu et leur a dit la même chose. Il a dit la même chose. Il a dit, mais non, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est pas parce que vous êtes fils de brahmanes que automatiquement vous êtes avancé spirituellement. Lui là-bas, il balaye la rue. Il est jugé par vous comme un paria, donc un intouchable. Mais si ça se trouve, son cœur est beaucoup plus doux, son cœur est beaucoup plus tendre, son cœur est beaucoup plus rempli d'amour que l'autre qui se dit brahmana. Donc lui, le Christ, encore une fois, il a décloisonné la spiritualité, il a décloisonné l'amour divin.
Avant de se faire crucifier, il est retourné chez Jean
Et ils ont
pour
voulu le tuer.
c'est
D'après
ça.
l'histoire védique de Jésus en Inde, ils ont voulu, encore une fois, ils ont déjà voulu le tuer là-bas, mais là ils n'ont pas réussi. En fait, ils n'ont jamais réussi à tuer le Christ. Hein? Et on peut apparemment tuer la matière, mais l'esprit vit toujours. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en parle encore.
D'ailleurs, ces fameux dévas, ils ont eu des aptitudes, des propriétés particulières au niveau autant physique que spirituel. T'en as glissé un mot vaguement tantôt, mais des propriétés de visibilité, d'invisibilité, de téléportation instantanée, de développer de la chaleur autour de leur corps physique dans des endroits extrêmement froids, de reconstruire un corps qui avait été blessé, soit une main coupée ou
Oui.
une blessure physique.
On va en parler, si tu veux, de ces pouvoirs. Il y en a combien? Il y en a 10.
Oui, parfait.
10. Il y en a 10. Le premier, c'est la communication mentale. On sait que dans les rapports d'OVNI, il y a beaucoup de communication
On
mentale.
appelle des fois la télépathie.
Lecture de la pensée, télépathie, tout à fait. Communication mentale, lecture de la pensée. Courante chez les humanoïdes védiques, quoique la parole soit aussi généralement utilisée. Donc, on peut parler, mais aussi lecture par la pensée, communication mentale. C'est le premier pouvoir. Le deuxième
Ah,
pouvoir,
on veut avoir le mot en sanskrit,
je l'ai pas.
probablement.
Je ne l'ai pas.
Non,
Je ne le
ok.
sais pas.
Bon.
Même si il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Deuxième, capacité de voir ou d'entendre malgré l'éloignement. Hein? Le Veda parle d'une capacité de voir ou d'entendre malgré l'éloignement. On a beaucoup de ça aussi dans les rapports d'OVNI. Le troisième, c'est là que tu vas être satisfait, Richard. Je l'ai en sanskrit. Lagima Siddhi. Lagima Siddhi.
C'est dit qui veut dire pouvoir.
Siddhi veut
On
dire
se
pouvoir.
souvient
Ouais.
des MT
Voilà.
Siddhi, la mé
Pas
méditation
confondre.
transcendantale qui donne le
Voilà.
pouvoir de léviter. Hein.
Siddhi, ouais. Siddhi, c'est pouvoir. Lagima veut dire lévitation. Lagima, lévitation. Tu
Ah
disais
oui,
tout à l'heure, il
d'accord.
faut le léviter. Là, il faut vraiment, il faut pas le léviter, mais il faut léviter. Lévitation ou apesanteur, hein, l'apesanteur. Il est aussi possible de créer un poids immense. Donc, Lagima Siddhi, c'est des pouvoirs qui sont connus, là, depuis des milliers d'années. Et les races supraterrestres les ont à la naissance. Le quatrième, Anima ou Mahima Siddhi, c'est le pouvoir d'altérer le volume des objets ou corps animés sans en perturber la structure. On en a parlé tout à l'heure. Prapti Siddhi, réduire les enfants, c'est ça? Prapti Siddhi, le pouvoir de déplacer des objets d'un lieu à un autre, apparemment sans franchir l'espace intermédiaire. Donc sans franchir l'espace, on peut se déplacer.
Ah, le bon vieux truc là où mettons on a un objet.
On est en plein dans Star Trek là. Hein.
Oui, c'est ça, c'est un peu une téléportation, hein.
Ça peut être une dématérialisation, une rematérialisation, téléportation.
C'est
Oui.
ça. Donc, comme on le voit là, ici, le crayon noir, là, je le place derrière moi. Avec un mantra. Il est rendu derrière toi.
Il fait peur.
Non, mais là, maintenant, là, il revient ici. La preuve qui est revenue. Il est revenu.
J'espère qu'il a gardé son bouchon, sinon je vais avoir une grande traînée de noir derrière la jambe.
C'est ça, oui.
Ça va être la preuve.
Mais il faut aérer tout ça. Cette connaissance-là, elle est fantastique. Fantastique, c'est quasiment de la science-fiction. Et c'est rassurant de savoir que, tu sais, c'est pas un John Roddenberry, là, le créateur de Star Trek, qui a écrit ça, là.
Mais moi, je trouve que ça donne énormément de crédibilité
Voilà.
à toute la thèse des UFO.
Bon, enfin,
Ça
c'est
donne
ça.
énormément de ça donne une crédibilité technique, mais ça donne aussi une crédibilité historique,
Voilà,
traditionnelle.
c'est ça.
Parce que les Védas, bon, ici en Occident, je ne sais pas, mais en Orient, quand on cite les Védas, c'est une référence.
Comme nous, la Bible
Oui,
ou
Veda
l'Ancien
veut dire,
Testament.
le mot Veda veut dire savoir. Savoir, connaissance.
Mmh.
Veda veut dire savoir. Déjà en partant. Et tout ce qui est marqué dans les Védas, C'est une référence. Hein.
Mais là-bas, en Inde, est-ce qu'il y a des gens qui s'affichent comme des contactés actuels et qui ont des rapports réguliers avec des extraterrestres ou en tout cas des devas?
Oui,
Ou... Ah oui, il y en a, oui. Mais ils parlent pas des religions, des mouvements, des médailles dans le cou, là.
Pas nécessairement, non.
Non.
Non, non, pas nécessairement.
Est-ce que.
On n'est pas obligé de partir à une religion à chaque fois qu'on
Parce
a
que tu penses, si on a
une
affaire à des
illumination.
êtres supérieurs, alors que si on a eu des contacts avec des êtres infernaux ou inférieurs, comment tu les appelles déjà, des
Asura.
Asura, là tu vas aller avec la médaille en métal, puis tu vas aller avec des structures religieuses qui font justement la preuve que tu n'es pas en relation avec des êtres supérieurs. On continue.
Donc voilà, il en existe Vihashaya. Vihashaya, c'est un autre pouvoir. C'est le corps physique. Je pense qu'on parle du corps physique. Là, le corps est directement transféré dans un lieu éloigné par l'action de la pensée. Ça, c'est un pouvoir qu'ont souvent les humanoïdes dans les rapports d'OVNI. On a le Vachitasiddhi. Contrôle hypnotique à distance, ça c'est évident dans les rapports de, dans les rapports d'OVNI, à chaque fois il y a l'hypnose qui rentre en jeu. Donc contrôle hypnotique à distance, les récits védiques démontrent que ce pouvoir sert à contrôler mentalement les gens à distance. On a beaucoup de ce pouvoir-là dans les rapports d'OVNI. Bon, il y a l'antardana qui est l'invisibilité, on en a parlé tout à l'heure. Avec différentes techniques de rendre un vaisseau spatial invisible ou un corps invisible, se rendre invisible. Le neuvième, c'est le pouvoir d'assumer différentes formes ou de créer des formes physiques illusoires. Et le dixième, enfin, le pouvoir d'habiter et de contrôler le corps d'autrui à l'aide du corps subtil. Le pouvoir d'habiter ou de contrôler le corps d'autrui. C'est-à-dire que
Incorporation.
incorporation, c'est ça. Je pense que dans le film que l'on a vu hier au Québec, il y a cette, à un moment donné, on voit une espèce de corps bleu là qui essaie de prendre possession du corps d'une fille. Hein?
Extrait de Dark Skies, on n'a pas manqué, tous les
Voilà.
samedis du soir encore quelques temps. Oui.
Voilà. Alors
Ben,
ça, c'est
c'est beau, hein?
une dizaine
Mais toi, Patrick Bernard, c'est ça, c'est que ça doit être rassuré. Les histoires à la Richard Glenn depuis 20 ans maintenant,
Ouais.
on parlait de contacter, je recevais des gens qui me disaient des affaires à bracadabrance, on pensait pour des farfelus. Tu tombes là-dessus, toi qui étais déjà intéressé, fasciné par l'enseignement oriental traditionnel, puis là tu dis, mais tous ces gens qu'on considère un peu comme farfelus, c'est parce que c'est pas dans les normes
Mais c'est ça,
conventionnelles.
on les considère comme farfelus tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la référence technique ou la référence traditionnelle ou historique de ces choses-là. C'est sûr, les gens ils disent, ah ben moi j'ai vu un extraterrestre et puis il s'est mis à disparaître. Là, il a traversé le mur. Et puis après, il y a eu un faisceau lumineux. Et puis non seulement il est parti sur le faisceau lumineux, mais moi aussi je suis parti sur le faisceau lumineux. Là, je me suis retrouvé dans un vaisseau spatial. Enfin, tous les rapports d'OVNI, ce n'est que des histoires comme ça. Si nous, on juge ces histoires-là, ces comptes rendus-là, par rapport à une expérience sensorielle reconnue par la civilisation actuelle, qui est une civilisation totalement matérialiste, alors on va juger ces histoires-là comme complètement frauduleuses, comme c'est ce que font les milieux scientifiques. Les milieux scientifiques jugent tout le phénomène par le doute. Quand ils ne rejettent pas tout simplement.
Est-ce qu'il n'y a pas, et je vais à l'extrême du sujet, là, par l'Orient, est-ce qu'il
Pas
n'y a pas
trop à
des
l'extrême.
mantras qui seraient des appels à ce débat?
Tout à fait. Tous les mantras sont basés là-dessus. Tous les mantras sont
Mais toi
basés
qui
là-dessus.
chantes
Ouais. Mais moi,
en
je
sanskrit,
ne fais que ça, moi.
bonjour, tu vas avoir une visite, tu viendras nous voir pour nous dire ton contact, à moins que ce soit déjà arrivé, hein?
Tu sais, il n'y a pas que la matière physique, il y a la matière subtile aussi. C'est-à-dire que le contact avec le Deva, parce qu'évidemment, on ne va pas se mettre à appeler des Asuras quand même. quoi qu'il y en a qui le font, dans la magie noire, il y en a qui le font. Toutes les incantations de la magie noire sont faites pour appeler justement des êtres qui viennent de régions multidimensionnelles, qui n'ont pas des intentions très très bonnes. Oui, ils peuvent venir de dimensions multidimensionnelles, mais ils peuvent aussi venir d'une autre planète ou d'une autre galaxie. Ils peuvent même venir d'une dimension multidimensionnelle et d'une autre planète à la fois. Tu vois, tout est possible.
C'est ça.
Donc, dans la magie noire, c'est ce qu'on fait. On chante des mantras, on chante des invocations pour attirer ces gens-là. Pour avoir des pouvoirs, forcément, sur des pouvoirs occultes, des pouvoirs des sidis.
Des incantations.
Ça, c'est pour attirer les gens qui nous donnent des pouvoirs malsains, finalement.
Mais toi, dans tes chansons, des pouvoirs tu déjà l'intention d'attirer ces devas positifs, là, des êtres supérieurs?
Ben moi, je veux pas me mettre à attirer des asuras, c'est sûr.
Non, c'est hein. Ça.
Je vais attirer des devas. Je vais attirer
mais comme il existe
des entités de lumière.
Il existe des techniques à la portée de tous pour agir avec les forces en bas. Les donjons et dragons sont bien souvent des techniques. On donne même des formules dans la série Donjons et dragons. Les jeunes, là, justement à l'époque de la puberté, commencent à jouer avec ces forces occultes, puis ils vivent des phénomènes pas tout à fait positif. Est-ce que Patrick Bernard serait pas l'homme tout désigné qui, au Québec, sait comment produire un disque avec des incantations positives, des mantras, qui sont carrément des formules que des gens pourraient répéter. Puis un bonjour, tout d'un coup, qui tombe exactement sur la bonne vibration, le bon son. Ce n'est pas simplement de le dire, mais la façon de le dire est très importante.
Mais la seule manière de le dire, c'est la sincérité. C'est le seul prérequis qu'il y a. C'est la sincérité. Parce qu'on parle de vibration d'amour, on parle de vibration de lumière.
Ouais.
Donc, c'est la sincérité de la motivation. Et c'est vrai que, moi, dans mes disques, ce que je fais, c'est que j'invoque des forces lumineuses. J'invoque des esprits lumineux. Pas seulement dans la tradition des Védas, du reste, dans d'autres traditions aussi.
Contact encore.
Ça, c'est personnel. Non, puis ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas non plus, un contact physique nécessairement. Ça peut être, ta vie peut se transformer parce que à force d'invoquer la lumière vient dans ta vie. Mais c'est pas que la lumière peut venir dans ta vie du jour au lendemain. Ou qu'un deva, décide d'aller te voir du jour au lendemain, ils ont autre chose à faire, hein. Ils ont plein de choses à faire, il y a tout l'univers à contrôler. Alors toi tu les déranges, ils vont pas nécessairement venir te voir en personne, mais ils peuvent t'envoyer des énergies. Ils peuvent t'influencer, ils peuvent envoyer des énergies de santé, de bien-être, de santé mentale surtout, hein. Hein? De positivisme. Ils peuvent, si tu te places sous l'influence d'une grande personnalité, cette grande personnalité, même si elle ne t'apparaît pas physiquement devant tes yeux, elle peut très bien t'envoyer des miettes ou des étincelles de lumière. Mm-hmm. C'est ce que fait le Christ aussi. Le Christ, il existe. Il existe encore. Il existera pour l'humanité. Et il nous dit toujours à nous, mais devenez-vous aussi des Christs. Et à chaque fois qu'on l'invoque, c'est sûr qu'on se branche sur son code, on se branche sur sa lumière, sur son faisceau, sur son rayon. Et même si le Christ ne nous apparaît pas là devant nos yeux ou dans notre méditation ou dans sur l'écran de notre existence, même si on le voit pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le sentir, son énergie à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour Krishna. C'est la même chose pour finalement n'importe quoi. Hein. Si je veux me brancher sur Richard Glenn, par exemple, bon, je vais t'appeler.
On se branche sur Internet.
Et je vais t'appeler. Je vais faire ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler.
Oui.
Hein, mais, Richard, je vais dire ton nom.
Oui.
Je vais rentrer en communication vibratoire avec toi par un numéro, par un chiffre, par une lettre, par une vibration sonore, etc. Bon, ben si ça se fait à des niveaux
matériels
et puis avec avec un être tout à fait ordinaire comme moi, tu sais, j'appelle quelqu'un, tu sais, je veux dire, bon, c'est ordinaire comme transaction. Ben ça se fait aussi au niveau d'Evic. sur des choses plus grandes. Et c'est la même chose. Et ces chiffres, ces noms, ils sont répertoriés dans différentes cultures. Dans la culture védique, c'est par les mantras. Si je dis Om Namo Narayanaya, je me branche sur Narayan. Narayan qui est un nom de Dieu. Narayan, le nom de Dieu, c'est un nom de Dieu, c'est un nom divin, c'est un chant sacré, Narayan, qui veut dire, Narayan veut dire celui qui est l'origine de tous les Nara, le premier. Si je dis Om Namo Bhagavate Vasudevayam, si je prends ma guitare et je me mets à chanter ça, je téléphone, c'est comme un numéro de téléphone, je lance le code d'accès pour rentrer directement en contact avec Vasudev. Vasudev, c'est celui qui est omniprésent. Bhagavan Vasudev, Bhagavate Vasudeva. Vasudeva, la grande personne, Bhagavan, la personne suprême omniprésente. Voilà. Donc je fais le numéro de téléphone de la personne suprême omniprésente. C'est un mantra. Et le mantra, c'est une structure sonore qui a à l'intérieur d'elle-même la potentialité de nous mettre en contact avec les énergies qui sont représentées par la vibration sonore, les énergies elles-mêmes. Et les énergies sont représentées par le nom. C'est pour ça que dans le mantra, il y a souvent le nom. Du reste, on dit dans la Kabbale ésotérique, on dit « Connaissez le nom des anges et vous pourrez les contrôler. Connaissez le nom des démons, vous pourrez les contrôler. » Il y a toute l'empreinte digitale d'un être, d'un individu. L'empreinte digitale d'un individu au niveau vibratoire, c'est dans son nom.
Bravo. Alors, Patrick, il faudra revenir un bonjour avec ta guitare.
Oui, c'est une belle salle ici pour faire un concert.
Oui.
Et un beau public aussi.
L'acoustique est bonne, tout.
Ouais. Oui, c'est bien. Très bien.
Bien, c'est vrai.
Ouais, du bois, du tapis. Très bien.
Et un bon public aussi.
Et un très bon public, merci.
Ouais. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir.
Oh,